Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, depuis l'Antiquité et aujourd'hui encore, les mathématiques sont essentielles pour qui veut comprendre la nature des choses. Notre invité du jour s'est intéressé plus particulièrement au rapport entre l'homme et les mathématiques. Il a publié « L'étrange beauté des mathématiques » en octobre 2008 aux éditions Odile Jacob. David Ruel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur émérite de physique théorique à l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette, auteur du livre que je viens de citer et dont nous allons parler plus en détail dans quelques instants, auteur également, je le précise, de « Hasard et chaos », livre réédité plusieurs fois et qui porte sur l'analyse du hasard. Nous parlerons dans cette émission, à travers votre livre « L'étrange beauté des mathématiques », nous parlerons entre autres de Newton, du théorème du papillon, de Bourbaki, de Alexandre Grothendieck et d'autres mathématiciens en général. Mais commençons, si vous le voulez bien, par Newton. Vous commencez votre premier chapitre sur lui et vous évoquez son rapport entre les mathématiques, mais également d'autres sciences qui, finalement, paraissaient un ensemble obscur. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Bien, donc Newton est un des grands mathématiciens, mais aussi physiciens que l'humanité a produit. Et le monde tel qu'il apparaissait à Newton était assez différent du monde que nous voyons maintenant. C'est-à-dire que Newton en particulier était une personne religieuse et essayait d'avoir une conception unifiée du monde où ses sentiments religieux, ses idées théologiques jouaient un rôle important comme ses idées mathématiques, ses idées sur la physique. Je dirais que maintenant, il y a bien sûr des scientifiques qui sont religieux, mais souvent ils mettent la religion d'un côté, la science d'un autre côté. Ils n'essayeront pas, comme faisait Newton, d'avoir une interprétation de l'histoire à partir des prophéties de l'Ancien Testament.
Et ce qui veut dire que à la fois les mathématiques et ce qui apparaissait peut-être un peu plus obscur étaient mis dans un même ensemble.
Oui, il y avait un même ensemble qui contenait des choses assez extraordinaires. L'alchimie, par exemple, qui intéressait beaucoup Newton, qui a fait de nombreuses expériences, peut-être même assez dangereuses pour sa santé. Et déjà à l'époque, l'alchimie était en train de tomber en désuétude. Donc c'est un peu curieux qu'à certains points de vue, Newton ait été très en avance sur son temps, mais à d'autres points de vue pas. Mais ce qui est le plus frappant, c'est l'intérêt global qu'il portait au monde où il vivait.
Alors, une question provocatrice. Maintenant que nous avons avancé dans les connaissances mathématiques, cela signifierait-il que nous sommes plus intelligents que Newton ?
Non, je ne pense pas à un personnage bien antérieur à Newton, qui est Archimède, était visiblement un très grand cerveau, un très grand mathématicien. Évidemment, on peut refaire ce qu'il a fait maintenant beaucoup plus facilement, mais il est clair que c'était un très grand esprit comparable aux meilleurs mathématiciens que nous avons maintenant.
Alors, est-ce que les mathématiques sont un langage que les hommes auraient inventé ? Est-ce que les hommes sont les créateurs des mathématiques ? David Ruel.
Alors, il y a deux points de vue un peu différents. Le point de vue qu'on appellerait platonicien, qui est de penser que les mathématiques existent en elles-mêmes et en dehors de l'homme et que l'homme les découvre. Et puis, un autre point de vue qui est plus proche du mien, je dois dire, qui est qu'il existe une réalité mathématique, mais ce que nous en voyons est fortement influencé par la nature particulière du cerveau humain. J'allais dire de l'esprit humain, mais il vaut peut-être mieux dire le cerveau, parce qu'il s'agit de choses comme la capacité de mémoire, la vitesse de réflexion, etc.
Et le langage alors ? C'est un langage propre, les mathématiques, puisque nous nous servons de la langue française en l'occurrence aujourd'hui, mais nous nous servons d'autres langues pour parler de mathématiques.
Là, effectivement, il y a une citation célèbre de Galilée qui est que la nature s'exprime en langage mathématique, que la nature est un grand livre et que ce livre est écrit en langue mathématique. C'est une formule très imagée que j'accepterai seulement avec un grain de sel. Je ne pense pas que la nature s'exprime en langue mathématique. Ce sont les observateurs, les savants qui observent la nature et qui traduisent en langage mathématique ce qu'ils voient. Mais la langue mathématique qu'ils parlent est celle des scientifiques, pas la langue de la nature, à mon avis.
Alors, dans votre ouvrage, il y a 23 chapitres que j'invite bien sûr nos internautes auditeurs à lire, notamment un chapitre consacré au théorème du papillon. Alors ici, bien sûr, nous sommes en radio, nous n'allons pas pouvoir refaire la démonstration géométrique, qui est cependant très intéressante, qui paraît comme ça facile à démontrer, qui est beaucoup moins facile qu'on ne le pense. Peut-être que vous pourrez nous en dire plus. J'aimerais évoquer avec vous ce théorème du papillon qui, finalement, a servi dans les années 70-80 à faire une sélection d'étudiants dans les universités russes. Vous pourriez nous en dire plus sur ce théorème du papillon ?
Alors, sur le théorème du papillon, c'est un théorème qui dit que quand on construit une certaine figure inscrite dans un cercle, deux segments ont la même longueur. Pour essayer de démontrer ça, on utiliserait les cas d'égalité des triangles, etc. Et on n'arrive à rien. Et le fait qu'on n'arrive à rien provient du fait qu'on essaye de démontrer ce théorème dans le cadre de la géométrie euclidienne élémentaire, alors qu'en fait, il faudrait utiliser ce qu'on appelle la géométrie projective, où il y a des concepts tels que le rapport anharmonique de quatre points ou de quatre droites. Et si on a le bon réflexe d'utiliser les concepts projectifs, alors le théorème devient relativement facile, sinon il est extrêmement difficile. Alors, quand on dit extrêmement difficile, ça ne veut pas dire qu'un mathématicien professionnel n'en vient pas à bout en un jour ou deux. En général, il en vient à bout le lendemain du jour où il a vu le problème.
Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, vous expliquez votre propre expérience.
Voilà, c'est mon expérience. C'est aussi l'expérience de Jean-Pierre Kahn. Il a séché et puis le lendemain, il a trouvé la solution. Donc, ça n'est pas un problème extrêmement difficile, mais un problème difficile quand même. Et alors, l'utilisation qui en a été faite en Union soviétique à une certaine époque était d'éliminer des candidats indésirables à l'entrée à l'université, indésirables pour des raisons ethniques ou politiques. Et en particulier, il y a un aspect tout à fait antisémite à cette situation. Bon, l'Union soviétique a évolué et était devenu à la fin un pays relativement antisémite.
Poursuivons avec Nicolas Bourbaki. Alors Nicolas Bourbaki, c'est un groupe qui a pris le nom Bourbaki, un groupe qui s'est créé en 1934 avec notamment Henri Cartan, André Veil et d'autres personnes que vous allez pouvoir citer. Une émission a été consacrée à Bourbaki, une émission enregistrée justement avec Jean-Pierre Kahn que vous avez cité à l'instant. Vous dites de Nicolas Bourbaki, et j'aimerais que vous m'en disiez plus, que ce jeune révolutionnaire, Nicolas Bourbaki, devint tyrannique et sénile. Vous y allez fort.
Oui.
C'était pourtant un groupe de mathématiciens jeunes à l'époque qui voulaient révolutionner les mathématiques.
Oui. Bon, alors, parlons d'abord de l'aspect révolutionnaire qui est le plus intéressant. Donc, l'histoire des mathématiques provient d'une suite de changements de point de vue qui a permis aux mathématiques d'avancer. Et quand Bourbaki s'est créé, c'est en réaction contre un certain style de mathématiques qui ne leur plaisait pas parce qu'il n'était pas assez conceptuel. Donc, Bourbaki a essayé de conceptualiser les mathématiques autour d'idées qu'ils appellent structure, structure de groupe, structure d'anneaux, structure algébrique, structure topologique, etc. Et donc, grâce à ces structures qui ont été définies, Bourbaki a donné une formulation beaucoup plus conceptuelle des mathématiques que ce qui était, ce qui existait en France à l'époque.
Il parlait même de la mathématique au lieu des mathématiques.
L'idée, effectivement, de parler de la mathématique plutôt que des mathématiques insiste sur le fait que la mathématique est une chose unifiée. Cela dit, un progrès certain a été fait en mathématiques de cette manière-là, mais il faut quand même se dire qu'il n'est pas évident que les structures introduites par Bourbaki sont vraiment inhérentes aux mathématiques. Est-ce que c'est une invention humaine ou est-ce que c'est vraiment une partie intrinsèque des mathématiques? Je dois dire que la question continue à se poser. Néanmoins, pour le progrès des mathématiques, il est clair que c'était une bonne idée d'introduire toutes ces structures. Ça a structuré le sujet d'une manière qui a été très utile à son développement. Cela dit, évidemment, tous les révolutionnaires commencent jeunes et finissent vieux. Et un vieux révolutionnaire n'est plus vraiment un révolutionnaire. Souvent, c'est un tyran ou il est dépassé par les événements. Donc, je dirais que Bourbaki a créé un changement dans les mathématiques qui s'est poursuivi et qui a, au fond, rattrapé Bourbaki et qui l'a dépassé au bout d'un certain temps. Et donc, ça explique le vieillissement. Pour ce qui est du caractère tyrannique de Bourbaki, je ne pense pas qu'il faille insister trop là-dessus, mais c'est simplement dû au fait que les bourbakistes qui formaient un groupe hors de l'establishment quand ils ont commencé ont formé l'establishment quelques dizaines d'années plus tard et donc ont eu le pouvoir avec tous les dangers que ça pose.
Mais cependant, ce n'est pas un groupe qui est resté dans le temps. Il a une valeur historique, mais
il a une valeur aujourd'hui. Historique. Il existe encore un séminaire Bourbaki qui joue un certain rôle. Mais enfin, Bourbaki n'est plus créatif. Il n'écrit plus. Et je crois qu'il a été en fait dépassé par son propre succès.
Vous parlez de révolutionnaire, ça me permet de faire une transition vers un personnage, mais là bien vivant, qui est Alexandre Grothendieck, un mathématicien que vous avez connu à l'IHES. Vous parlez longuement de lui au cours de deux chapitres dans votre ouvrage « L'étrange beauté des mathématiques ». Il a finalement abandonné les mathématiques pour des raisons peut-être que vous nous expliquerez. Pourquoi avoir parlé de lui dans votre ouvrage ?
J'ai parlé de lui parce que c'est un personnage qui a beaucoup de caractère. Sa vie est assez extraordinaire. Il est le fils d'un révolutionnaire anarchiste russe qui a passé des années dans les prisons du Tsar avant de faire la révolution, mais pas du côté des bolcheviks. En tant qu'anarchiste, il n'était pas bien vu des bolcheviks. Il est passé en Allemagne où, en tant que juif, sa situation s'est rapidement devenue mauvaise. Puis il est allé en France, il est allé en Espagne, à l'époque de la guerre d'Espagne. Il s'est retrouvé dans un camp en France et puis il a été envoyé de là à Auschwitz où il est mort. Donc ça, c'est le père. La mère, Grothendieck, qui s'appelait d'ailleurs Grothendieck.
Anka Grothendieck.
Anka Grothendieck, oui. C'est aussi un personnage extraordinaire qui a écrit un roman, Eine Frau, de 1500 pages, qui n'est pas publié, mais peut-être le sera-t-il un jour. Et donc le fils était un mathématicien naturel. Il a commencé des études à Montpellier dans un milieu qui n'était pas particulièrement extraordinaire. Puis il est monté à Paris et puis il a été remarqué par des gens comme Laurent Schwartz et d'autres, et s'est retrouvé au milieu des mathématiques à une époque où les mathématiques françaises étaient particulièrement fécondes avec Bourbaki, dont Grothendieck a été membre d'ailleurs un court temps. Et puis il s'en est séparé simplement parce qu'il avait son propre programme sur lequel il a travaillé pendant une bonne dizaine d'années. C'est donc un personnage assez extraordinaire. Et puis vers 1970, il a quitté l'IHES dans des conditions qui ne sont pas particulièrement plaisantes et a déclaré qu'il ne ferait plus de mathématiques, il voulait s'occuper de problèmes sociaux. Finalement, il a refait des mathématiques, mais dans de moins bonnes conditions. Et il s'est isolé de plus en plus. Maintenant, il vit dans un petit village, quelque part au pied des Pyrénées, et on ne sait pas officiellement où il habite, et on le laisse tranquille.
Est-ce que, à l'image de ce personnage, Alexandre Grothendieck, il y a toujours une passion? Parce que c'est très passionnel, finalement, son rapport aux mathématiques. Est-ce que pour chaque mathématicien de haut niveau, il y a quelque chose du domaine de l'irrationnel?
Je crois qu'il y a effectivement de la passion et de l'irrationnel, mais qui diffère d'un mathématicien à l'autre. Et un des grands intérêts de Grothendieck, c'est qu'il s'est exprimé très explicitement sur cette passion, expliquant par exemple que sa grande passion à lui, c'était de regarder un problème jusqu'à ce que sa solution devienne évidente. Sa grande passion, dit-il, c'est de découvrir des choses évidentes. Alors, peu de gens peuvent se permettre de dire une chose pareille, parce que si on dit ce que j'aime trouver sont des choses évidentes, on dira c'est que c'est des choses pas très intéressantes. Mais dans le cas de Grothendieck, étant donné les travaux extraordinaires qu'il a faits, dire qu'il s'intéresse aux choses évidentes, ça dit beaucoup plus que ça pourrait dire pour une autre personne.
Pour avancer sur ce côté passionnel, irrationnel, vous posez la question de savoir de quoi a besoin un mathématicien. Alors bien sûr, il a besoin de son cerveau, mais vous évoquez aussi que beaucoup de mathématiciens ont besoin du tabac pour accroître leur concentration, et puis certains ont besoin d'un verre de vin, un peu d'alcool, pour au contraire ralentir ces esprits un peu vifs qui pourraient les pousser à faire des erreurs, à commettre des erreurs.
Oui. Bon, alors je crois qu'il ne faut pas exagérer l'usage des drogues par les mathématiciens. Je crois que dans d'autres domaines artistiques, par exemple, il y a vraiment de l'abus de drogue. Le cerveau du mathématicien étant son instrument de travail, il ne peut pas le malmener. Cela dit, c'est vrai que le tabac aide à se concentrer, et comme ça a des effets tout à fait mauvais par ailleurs sur la santé, il vaut mieux s'en passer. Mais je me souviens, pour moi-même et pour un certain nombre de collègues, qu'au moment d'arrêter de fumer, on s'est trouvé dans une situation très désagréable où on était incapable de se
réfléchir.
Concentrer.
Oui. Est-ce qu'un mathématicien a besoin d'ambition pour réussir?
Je crois que là, les mathématiciens sont assez différents les uns des autres. L'ambition doit en tout cas être maîtrisée, parce qu'on ne peut pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Il faut toujours calmer le jeu, revenir très lentement sur ce qu'on a fait jusqu'à être parfaitement sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Mais sinon, l'ambition dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, est une chose importante.
Vous parlez aussi d'une question qui est assez amusante, c'est de savoir pourquoi les mathématiciens semblent aussi peu adaptés à la vie sociale. C'est vrai qu'on peut avoir comme ça une image, un stéréotype du mathématicien reclus, du mathématicien ou de l'informaticien derrière son écran d'ordinateur, assez peu enclin à la communication.
Oui, il y a peut-être deux aspects différents. Un aspect négatif, c'est que les gens qui ne sont pas doués pour les rapports sociaux peuvent assez facilement se tourner vers des tâches où les rapports sociaux sont peu importants, comme les mathématiques ou d'ailleurs l'informatique. Il y a peut-être autre chose qui est l'effet des mathématiques sur le cerveau et sur le comportement. Alors, un mathématicien, c'est quelqu'un dont le cerveau n'arrête pas de fonctionner. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, mais il y a toujours quelque chose qui tourne et ça occupe le cerveau et ça empêche de l'utiliser à autre chose. Et je dirais que de ce point de vue, les mathématiciens sont un peu comme les poètes. Les poètes aussi retournent dans leur esprit, consciemment ou inconsciemment, des vers jusqu'à obtenir une formulation parfaite. Et les poètes sont connus comme étant des gens distraits, et les mathématiciens aussi, et je crois que c'est pour la même raison.
Est-ce que vous pensez que les mathématiciens sont en voie d'extinction? Je précise ma question puisque vous parlez de l'ordinateur et vous êtes, je cite, vous êtes effrayé par l'évolution galopante et certainement illimitée des ordinateurs qui pourraient devenir meilleurs mathématiciens que les hommes.
Bien, alors, c'est toujours dangereux de faire des prédictions, mais on assiste à une situation où maintenant, on utilise les ordinateurs dans le cours de certaines démonstrations mathématiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des démonstrations aidées par ordinateur. Ça a été le cas de ce qu'on appelle le théorème des quatre couleurs. Mais on est en train d'aller plus loin. Il y a maintenant, pour certains théorèmes, des démonstrations qui font appel à l'ordinateur d'une autre manière. C'est-à-dire qu'un mathématicien humain écrit un certain nombre de lemmes qu'il donne à un programme d'ordinateur qui vérifie que c'est correct. Et on a somme toute une démonstration qui est vérifiée par ordinateur. L'ordinateur n'a pas encore un rôle créatif, mais il permet de vérifier avec une certitude supérieure à ce qui pourrait être obtenu par une démonstration purement humaine.
Il reste un outil pour l'instant, en attendant d'être
plus. Pour l'instant, ça reste un outil, mais vu la vitesse à laquelle les choses ont bougé en quelques dizaines d'années, on peut penser qu'un temps venant, il y aura des ordinateurs ayant un certain pouvoir créatif. Et alors, à ce moment-là, les mathématiciens humains risquent de se retrouver dans une situation désagréable, d'être moins bons dans leur domaine que ne le sont les ordinateurs. Déjà, pour ce qui est des échecs, les ordinateurs sont arrivés au niveau des humains, avec l'aide des humains, bien entendu, mais ils sont meilleurs.
La réalité rejoint la science-fiction.
Oui, et ça n'est pas nécessairement une chose agréable. L'évolution peut ne pas donner des choses toujours très jolies. Hein. Quand on voit les cathédrales gothiques, on sait qu'elles se sont arrêtées à un certain moment et qu'elles ont été remplacées par autre chose qui est certainement différent et qui n'est pas certainement meilleur du point de vue. Donc il y a un art humain qui est l'art des mathématiques qui arrivera peut-être à une fin ou en tout cas à un changement de style que tout le monde n'appréciera pas.
Alors pour terminer cette émission très rapidement, j'aimerais vous poser la question que vous posez vous-même à la fin de votre livre « L'étrange beauté des mathématiques ». La question est la suivante. Peut-on dire ce qui fait la beauté des mathématiques? David Ruel, je vous pose la question.
Bien, alors j'ai proposé une réponse, mais certainement d'autres gens proposeraient d'autres réponses. Ce qui me frappe dans les mathématiques, c'est le contraste, le mélange entre les choses extrêmement simples et les choses extrêmement compliquées. Donc, en art aussi, on trouve ce contraste entre le simple et le compliqué, mais peut-être que dans l'art, c'est un effet de l'art, tandis qu'en mathématiques, on a l'impression que ça fait partie de la nature même des mathématiques, que certaines choses simples auxquelles on s'intéresse mènent inéluctablement à des situations extrêmement complexes et que d'autre part, derrière certaines situations extrêmement complexes, on retrouve une certaine simplicité. Donc peut-être que c'est ça qui, pour les mathématiciens, fait la beauté du sujet.
Eh bien, j'espère que ça donnera l'envie à nos internautes auditeurs de lire votre ouvrage, dont je reprécise le titre « L'étrange beauté des mathématiques », paru aux éditions Odile Jacob en octobre 2008. Eh bien, je vous remercie et puis je l'espère à bientôt pour une prochaine publication. À bientôt, au revoir.